même, donc, l'Organisation météorologique mondiale vient de sortir un nouveau bulletin qui donne justement des prévisions de température pour la période mars, donc à partir de ce mois-ci jusqu'à mai 2020. Donc peut-être justement pour commencer, quelles sont ces prévisions ?
En fait, les faits saillants de ce bulletin, alors juste pour rappeler, l'Organisation météorologique mondiale publie un bulletin trimestriel sur l'état d'évolution du phénomène El Niño. En simple, El Niño, c'est un réchauffement de l'océan Pacifique au niveau du centre de l'équateur. Et donc, l'effet saillant du bulletin qui est paru il y a deux jours déjà, le 2 mars, c'est de dire que les conditions El Niño sont neutres. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à voir un ligno. Le bulletin propose également une estimation des probabilités. Alors, pour faire simple, les outils utilisés pour anticiper l'évolution d'El Niño, c'est des modèles numériques qui combinent de la physique, de l'informatique. Et ces modèles nous disent, ils ne sont pas produits par l'Organisation mondiale météorologique, mais par les grands centres de production mondiaux. Or, ils sont 13 sur la planète, aux États-Unis, en France, au Japon et un peu ailleurs. Et donc, ces modèles nous disent que avec une probabilité de 60%, on peut dire que pendant la période mars à mai 2020, on restera dans des conditions neutres. Et puis, en ce qui concerne El Niño, on a juste 35% de chances d'être dans des conditions El Niño. Alors ça, c'est l'effet saillant. En gros, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'indicateur El Niño n'est pas le seul phénomène qui peut causer des changements brusques dans l'atmosphère. Il y a d'autres indicateurs.
Justement, aussi, ce communiqué parle de l'oscillation australe ou le ENSO. Donc, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ce ENSO, oui, et qu'est-ce que cela permet, justement?
Oui. Alors, pour ENSO qui se traduit, ça vient de l'anglais, qui veut dire El Niño Southern Oscillation. En gros, c'est le phénomène El Niño. Alors, on va dire que tous les 3-4 ans, vous avez au niveau de l'océan Pacifique, au niveau de l'équateur, un réchauffement qui est naturel. Alors, il n'y a personne qui le cause, il arrive comme ça. Et alors, les eaux de surface se réchauffent. Ça a pour conséquence de changer la circulation atmosphérique. Or, les vents, les pluies, et souvent le phénomène El Niño est associé à des sécheresses, des inondations un peu partout dans le monde. Et dans beaucoup de pays, un moyen d'anticiper les sécheresses ou les inondations, c'est de surveiller l'évolution d'El Niño, parce qu'ils vont trouver des corrélations entre le phénomène d'El Niño et puis ce qui arrive dans beaucoup de régions du monde.
Donc, on dit que pour cette période, il n'y aura pas de El Niño. Mais sans El Niño, qu'est-ce qui peut provoquer justement un réchauffement?
Et en fait, c'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que de nombreuses sociétés, de nombreux pays suivent attentivement l'évolution d'El Niño. Mais dans l'atmosphère, dans le système climatique, il y a d'autres facteurs. Et un des facteurs importants, c'est celui qu'on appelle le dipôle, par exemple, de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre, il y a eu des inondations en Afrique de l'Est qui étaient liées à ça. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent d'El Niño qui est dans l'océan Pacifique. Et le dipôle de l'océan Indien, c'est qu'on trouve dans l'océan Indien une différence de température entre la partie Est et la partie Ouest. Et souvent, dans la partie la plus chaude, elle est accompagnée de pluie. Les pluies sont les plus marquantes parce que c'est ce qu'on observe ou bien c'est ce qui affecte le plus. Mais on a des pluies, on a des sécheresses, on a des vents, enfin, toute la circulation est modifiée.
Et donc, on parle que El Niño et El Niña ne sont pas les seuls facteurs justement qui déterminent les régimes climatiques. Donc, les autres facteurs sont donc le dipôle. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui agissent sur les régimes climatiques?
À l'échelle planétaire, ceux-là sont, on va dire, ce sont les plus importants, mais à l'échelle régionale, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte pour modifier le climat à l'échelle d'une région. Ce qui est important de souligner pour El Niño et puis le dipôle de l'océan Indien, c'est que les grands centres de production climatique ont pris la mesure de la situation et produisent des prévisions de manière régulière pour suivre ces événements. Et ce qu'on fait à l'OMM, c'est qu'on compile les informations produites par ces centres pour produire des bulletins et informer les nations de ce qui se passe à l'échelle. Parce que souvent, ce qui est difficile à percevoir, c'est le contexte planétaire. on peut avoir des informations locales, régionales, mais ces bulletins, par exemple, vous donnent une idée de ce qui se passe à l'échelle planétaire. Et puis ensuite, les régions, les pays peuvent raffiner l'information à leur niveau, à leur échelle.
Et est-ce que justement, on parle énormément du changement climatique, est-ce que ce changement climatique est un des facteurs, si ce n'est pas El Niño ou El Niña, est-ce que justement le réchauffement de la planète, est-ce que ça peut aussi provoquer des anomalies?
Oui, pour le réchauffement climatique, les scientifiques disent que ce qui est en toile de fond, donc on a la tendance du réchauffement qui se superpose à tout ça. Or, ce qu'il faut noter, c'est que El Niño et les autres phénomènes, ils font partie de ce qu'on appelle la variabilité naturelle du système. Mais à cela, il faut rajouter le réchauffement qui amplifie ces fluctuations.
Donc, peut-être en dernière question, va-t-on avoir une année la plus chaude en 2020?
Pour dire que l'année sera la plus chaude ou pas, je pense qu'on va attendre la fin de l'année. Vous vous souvenez que l'Organisation météorologique mondiale produit ce qu'elle appelle l'état du climat annuel. Or, 2019 était l'année la plus chaude, mais ce bulletin ou bien ce rapport est obtenu à partir de mesures d'observation. À la fin de l'année, on vous dira avec les mesures ce qui a été observé, si l'année est la plus chaude. Mais ce qui est vrai, la tendance est au réchauffement. Et dans le bulletin qui a été publié par rapport à El Niño, ils disent que les modèles prévoient un réchauffement sur les surfaces terrestres. Donc la température va augmenter. En fait, tout ça, c'est lié au réchauffement climatique qui est en toile de fond.
Et donc, on a vu déjà que le mois de janvier, je pense, a déjà été un des mois les plus chauds, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai qu'il a été remarquablement chaud. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce mois a été très chaud sans El Niño, parce que vous savez qu'El Niño rajoute quelques degrés de chaleur quand il fait chaud. Et on a eu un mois de janvier particulièrement chaud sans El Niño. On peut imaginer ce que ça aurait été si on avait un El Niño au-dessus.